abandonné l'idée du parti libéral mexicain, d'ailleurs qui a provoqué des malentendus avec les anarchistes européens un peu plus tard. Mais c'est vrai que quand il s'exile aux États-Unis en 1904, parce qu'il ne peut plus continuer la lutte politique au Mexique, il a été arrêté à plusieurs reprises, à un moment donné, il a été interdit de publier un quelconque article de n'importe quel journal d'opposition mexicaine. Donc lui, sur le sol, restait une solution, émigrer aux États-Unis. À l'époque, avec certaines illusions sur ce que pouvait être la démocratie américaine, qu'il le dit, mais très vite, il désenchante. En même temps, il va trouver trois milieux. C'est-à-dire, les immigrés mexicains sont déjà très nombreux au Mexique. Il y a déjà un million qui travaillent dans les mines et les plantations. Il va être un milieu dans lequel il va s'inscrire d'emblée. Après, il y a les milieux espagnols, d'immigrés, d'exilés politiques et de sud-américains aussi. Et après, évidemment, les anarchistes et les socialistes américains, soit du côté de socialistes, Labour Party, d'Eugène Debs, ou alors les journaux et les groupes liés aux IWW, Emma Goldman, Alexandre Bergman, Valérie de Klerk, qui a joué un rôle très important dans la diffusion du magonisme aux États-Unis. C'est elle, fondamentalement, qui a écrit les grands articles publiés dans le journal d'Emma Goldman sur la révolution mexicaine.
La lucha sigue a este ritmo, rocksteady beat. Hey. Bye, bye, vaya. Bye, bye, vaya. Bye, bye, vaya. Bye, bye, vaya. Y ahorita aquí me encuentro. Y ahorita aquí me encuentro. La lucha sigue y sigue. La lucha sigue y sigue. La gente bien sobre es la lana.
La lana.
La gente bien sobre es la lana.
La lana.
Colonización mental. Agenda internacional.
Alors donc sur cette musique, c'est la musique qu'on avait reçue donc du Chiapas. Il y a plusieurs disques, donc j'aime beaucoup ce morceau. La lucha sigue, sigue, la lutte continue, continue. Et je voulais simplement vous dire que je pense qu'il y aura une suite, évidemment, à l'entretien avec Américo Nunes, tout à fait normal, une fois que j'aurai un peu remonté tout ça et retrouvé toutes mes archives. Et puis, samedi prochain, nous parlerons cinéma, mais aussi de bouquins. Mais j'ai pas encore toute la liste, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sortent en ce moment. Et notamment, il y a une chose qu'on a fait pour une fois un peu différente. C'est-à-dire, on va parler avec une critique de cinéma, Ariane Allard, qui est critique à Positif, Cosette et Au masque à la plume. On a décidé de parler et de discuter ensemble d'un film de Sean Price Williams qui a pour titre The Sweet East. Et moi, j'aime beaucoup le film. Ariane, elle l'aime beaucoup moins, elle est plus réticente. Et donc, ça sera, on discutera là-dessus, on aura donc nos arguments. On va faire un petit peu ça à la manière, bon, du masque, n'exagérons pas, mais disons de Longtemps je me suis couché de bonheur, par exemple. Ça sera un clin d'œil à Longtemps je me suis couché de bonheur. Et à Francis Gavel et à tous ses complices. Ensuite, nous parlerons d'un film absolument magnifique qui a pour titre Les Chroniques de Téhéran, de Ali Asghari et Ali Reza Ratami. Ça, c'est une petite merveille qui parle justement de la société iranienne avec un humour absolument féroce. Un autre film, c'est un film que j'aime beaucoup, c'est un film sur le droit des femmes, c'est Tiger Stripes de Amanda Nell E. Un autre film aussi qui est important, ça sera sur l'Afrique et c'est sur la révolution et tout ce qui s'est passé en Afrique. C'est Nommé, un film de Sana Nada, qui est un film de montage d'archives et de tournage actuel. C'est un très beau film. Et enfin, nous parlerons d'un film dont nous ferons l'entretien un petit peu après, mais nous parlerons déjà d'un film qui va sortir aussi le 13 mars. Tous ces films sortent le 13 mars. Et c'est Mis Hermanos, un film de Claudia Wekimila que nous recevrons dans les Chroniques Rebelles. Voilà, et bien écoutez, très très bonne semaine, et bien sûr, comme d'habitude, et bien surtout, tenez bon.
Radio Libertaire 89,4 MHz, dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques. Et histoire de commencer ce magazine comme à l'accoutumée, quelques petits... Je me souviens de Défense d'affichés, loi du 29 juillet 1881. Je me souviens qu'en troisième, Laurent piquait à son père des cigarettes pour les passer à Patricia, qui avait déjà commencé à fumer dans les toilettes du collège. Des gitanes maïs, fallait du courage. En seconde, il se mit aux gauloises bleues. Ils tiraient tous les deux à tour de rôle sur la tige. En première, ils se mirent au tabac à rouler, de l'Amsterdammer. Elle avait une rouleuse et lui avait le geste pour humecter le papier Rie-la-Croix. En terminale, un ami commun leur fournissait de l'herbe qu'il mêlait au tabac blond, la tête sur ses genoux, les yeux dans le vague. Elle écoutait Tangerine Dream qui tournait sur son électrophone et lui, il se caillait parce qu'il fallait garder la fenêtre ouverte pour que l'odeur se dissipe avant le retour de son daron. Quand ils partirent en fac, lui à Jussieu, elle en droit, à Nanterre, elle lui offrit une pipe. Son père en avait plusieurs, il ne verrait pas qu'il lui en manquerait une et elle trouvait que ça allait très bien à Laurent, la bouffarde avec sa casquette nouvellement trouvée. « Non, t'es con, Nicolas. Qu'est-ce que t'avais compris ? Une pipe ! Patricia et moi, on était potes depuis l'enfance, bons potes, c'est tout. » Ils se revirent 10 ans plus tard, lui prof de maths, des ZR, titulaire zone de remplacement, un F2 à Bagneux, elle secrétaire administrative en disponibilité pour élever ses gosses, un beau mariage comme on disait parfois. Et elle l'avait engueulé. « Non mais, tu vas pas fumer devant une femme enceinte ?» Je me souviens que j'avais dû expliquer à Marie-François Sissi, avant, on se mettait sous l'abribus du 96 pour attendre le prochain, sans même savoir s'il arrivait dans 4 minutes, 12 minutes ou une demi-heure. Je me souviens que chaque fois que je passe rue de la Rénie, je me souviens du café où nous avions pris un pot à quelques-uns après un spectacle au tour-tour. Un type était venu faire la manche, vendant quelques vieux livres pour se payer des médicaments, pour atténuer les douleurs du sida. Bobrenet l'avait pris à part, plus de 10 minutes, lui payant un verre, lui écrivant quelques numéros de téléphone à 7 chiffres et lui donnant quelques billets à 2 chiffres. 2 ans plus tard, c'est à Bagneux qu'on suivait le sapin de Bobrenet. La trithérapie n'avait pas encore été inventée. Je me souviens que... Attends, que je retrouve la bonne page, oui. Je me souviens que c'est notre voisine, Madame Vier, qui avait lavé les draps dans lesquels ma mère avait accouché de moi. À la maison, avec seulement cette voisine pour l'aider, mon père était alors en formation à Paris. À propos de draps, je me souviens que j'ai grignoté des morceaux de la couverture de mon lit de bébé contre les barreaux en laiton au pied du lit de mes parents. Je me souviens aussi que j'ai passé des heures à lire, couché sur un lit, sur le ventre, sur le flanc ou sur le dos, des romans de Jules Verne, des vieux Mickey de mon cousin, ou quelques Gérard de Villiers empruntés à Jean-François, plutôt sur le dos pour lire cela. Je me souviens que quoi qu'on fasse, dans le lit de la petite pièce donnant sur le jardin, quand j'allais dormir chez ma grand-mère, il restait entre les draps ourlés, brodés et l'édredon, des petits bouts de bois, des mouches mortes et des poussières de charbon. Je me souviens que j'ai pas voulu qu'on change mes draps pendant 1 mois, juste parce que Brigitte, la meilleure copine de ma sœur, avait dormi dans mon lit un samedi soir où j'étais pas là. Je croyais pouvoir sentir son odeur et même retrouver sa forme là où je passais les doigts. Je me souviens que c'est dans un vieux drap en coton orange que mon père a roulé Félix, le seul chat de la maison qui soit mort de vieillesse, pour ensuite l'enterrer au pied du cerisier. Je me souviens du sourire entendu de la dame qui nous avait accueillis dans la location à Erquy en Bretagne. « Vous n'avez pas apporté vos draps? Je peux vous en louer pour 20 francs la semaine. Je vous en donne que 2 pour le lit de 120, n'est-ce pas ?» Je me souviens que les draps de l'hôpital de Beauvais sentaient le propre et pas la vie, et que la peau de mon père était quand même plus douce que le tissu aux fibres denses estampillées à PHP. Je me souviens que, très officiellement, la vieille Céleste avait couché sur son testament qu'elle léguait ses draps, 2 paires et 4 tés, au fils de sa sœur et son missel à sa sœur. C'était à peu près tout ce qu'elle possédait. Je me souviens de Léon Beaulieu, Étienne Bodman, Jules Bresse, Henri de Lalande, Georges Jacquemin. Des noms attrapés au hasard sur le monument aux morts le long du Père Lachaise, noms des soldats de la guerre de 14, morts pour rien, que tout le monde a oublié depuis. Est-ce qu'on leur doit pas ça, un nom, un jour, à la radio, 100 ans plus tard ?
Poi, 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 on part à Gaza, bombarder les terroristes, les femmes, les enfants, les chiens, les chats. Poi, 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 le Hamas, c'est des barbares. Nous, on tue avec des bombes, pas des roquettes, ça a rien à voir. Poi, 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 on a visé l'hôpital. C'est par humanisme, pour que les blessés, plus jamais mal. Poi, 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 j'ai entendu du bruit. Désolé si j'ai tiré, j'ai cru que c'était une rêve partie. Poi, 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 on a coupé l'eau courante. On va vous doucher, on a pas le mot phosphore à l'essence. Poi, 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 vous êtes dans des tunnels. On va les gazer et sceller les portes à la truelle. Poi, 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 nous on fait pas d'otage. À part 2 millions à ciel ouvert derrière du haut voltage. Poi, 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 mais vous pouvez prendre la fuite. Promis, vous reviendrez en même temps que les réfugiés de 48. Poi, 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 on a détruit vos maisons. On en reconstruira des mieux quand s'y installeront nos colons. Poi, 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 on était là il y a 2000 ans. T'as qu'à retourner en Espagne où vous étiez il y a 1000 ans. Poi, 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 Dieu est dans notre camp. La preuve, j'ai jamais vu un rabbin qui était musulman. Poi, 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 nous c'est pas pareil. On était terroristes, mais contre les Anglais pas Israël. Israël, poi poi poi, eux c'était des colons, ça n'a rien à voir, nous on est chez nous, on a raison, poi poi poi, le Hamas c'est fini, jusqu'à ce que leurs enfants soient grands et de haine remplis, poi poi poi, critiquer Netanyahou, c'est antisémite, c'est anti-France, c'est pas bien du tout, poi poi poi, la paix maintenant, et Free Palestine c'est antisémite, djihadiste et islamo-fasciste, poi poi poi, votez LFI, c'est antisémite, pas une opinion mais un délit, poi poi poi, ballon d'or à Benzema, c'est antisémite, faut le donner à Dolev Aziza, poi poi poi, les chansons de Vaquette, c'est antisémite, hein. Poi poi poi, avoir été contre l'apartheid, c'est du racisme anti-blanc. Ah non, merde, non, là c'est pas pareil. Poi poi poi, on part à Gaza, bombarder les terroristes, les femmes, les enfants, les chiens, les chats, poi poi poi, le Hamas c'est des barbares, nous on tue avec des bombes, pas des roquettes, ça a rien à voir.
Radio Libertaire 89,4 MHz, Tristan Edern-Vaquette, puisqu'on avait failli avec la situation en Russie oublier la situation au Proche-Orient, qui elle-même nous avait permis d'oublier la situation en Ukraine, qui elle-même nous avait permis d'oublier les situations en Afrique, etc., etc. On oublie vite, que voulez-vous. Radio Libertaire 89,4 MHz, au sommaire de l'émission d'aujourd'hui, un sommaire très dense comme d'habitude, Evelyne.
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, donc, c'est un spécial théâtre, hein, et musique. Nous avons des jeunes invités aujourd'hui dans le studio de Radio Libertaire. Ah oui, c'est vrai, vous êtes jeunes. je suis jalouse. Mais enfin, ça me fait plaisir, parce que bon, c'est la relève, hein, quand même, hein, c'est la relève. En la présence donc de Nicolas Porcher.
C'est ça, bonjour.
Et Héloïse Bloch.
Oui, bonjour.
Voilà. Et donc, ma copine, de même âge que moi.
Voilà, exactement, un peu plus âgée, Anne Delalleux, Théâtre Passion. Bonjour à tous.
Bisous. Voilà. Et nous attendons tout à l'heure Frédéric. Ouais. Voilà, qui vient nous parler de son prochain spectacle. On va enchaîner tout de suite parce que vous êtes assez pressé, hein, vous me l'avez expliqué. Vous partez pour les répétitions, enfin le spectacle de ce soir,
oui.
Qui a lieu au Théâtre de la Flèche, 77 rue de Charonne.
C'est ça.
Et dans le 11e, voilà. Oui. Et c'est un spectacle qui est intitulé Le prince à la tête de coton. Alors, c'est un titre de spectacle qui est tout à fait énigmatique. Alors, je vais demander à Nicolas s'il a trouvé le mail que je lui ai adressé via la boîte de Jean-Marie. C'est fragment 3, c'est Nono. C'est bon ?
C'est bon.
Alors, on va passer à un extrait de
Alors, d'un poème que j'ai écrit.
D'un poème que vous avez écrit.
Et que j'ai mis en musique, et que du coup la metteuse en scène du spectacle, Héloïse Bloch, parle, et qui nous a servi de base de travail sur du coup, la pièce qu'on joue à la Flèche tous les samedis.
Voilà,
à 19h,
ça date déjà de 2019. Hein, c'est,
ouais.
Voilà.
C'est un long processus.
C'est un long processus. Eh bien, on va écouter ce qui va faire une guise de bande-annonce.
J'ai perdu mes mots, comme on perd ses clés, quelque part, je sais pas où. J'étais pourtant sûre de les avoir. Derrière la porte, je les entends. Ils ont l'air joyeux. J'entends la rumeur de leur voix, de leurs pas. Mais la porte en bois garde pour elle seule, au fond de ses fêlures, le sens et la clarté. J'ai perdu mes clés. Pourtant, à l'instant, j'étais sûre de les avoir encore. J'espère qu'ils ne s'inquiètent pas trop de ne pas me voir rentrer. Alors je toque, retoque. moi. On m'a volé mes clés. Quand? Je sais pas. J'arrive presque encore à les sentir au creux de ma poche, contre ma peau. Mais le voleur est parti, voler un autre. Et personne ne m'entend. Désormais, tous sont des portes, brisées, en coin, dérobées. Ils sont des portes fermées puisqu'ils ne m'ouvrent pas. J'ai bien essayé de la crocheter, cette foutue serrure, mais ma boîte à outils est derrière la porte. Par la trappe du chat, il me sert à manger. Par la trappe du chat, il me sert à manger. Car on perd sa cuisine quand on perd ses clés. Ils ont bien essayé de l'enfoncer, cette foutue porte, mais elle est blindée. Les plus gentils ont installé des portes vitrées pour que je voie leur visage, et eux, le mien. Souvent, ils ont l'air tristes, du moins quand je suis là. Je ne peux pas leur en vouloir. Rares sont les gens à être solaires devant un visage de pluie. On ne réconforte pas un homme trempé sous une averse. Oui, j'ai perdu mes mots comme on perd ses clés, comme un rien, juste comme ça. Alors, je vais rester là, à vous écouter. Je vais m'asseoir devant votre porte et attendre. Comme le chien immobile attendant anxieux la fin des vacances. Alors, espérant que la porte se rouvre.
Ouais, je crois que c'est terminé.
Vous avez coupé la dernière phrase. Ah, bon. Espérant que la porte se rouvre.
Ah, mais c'est... D'accord. Donc, Nicolas, si vous pouviez faire un petit commentaire sur ce qu'on vient d'entendre. Parce qu'en fait, comme vous le disiez, c'est à partir de là que vous avez écrit la pièce. Vous avez commencé par... il y a la voix de votre père. Hein,
On entend la voix de... À ce moment-là, c'est encore très... alors, pour reprendre les choses dans l'ordre, c'est un poème que j'ai écrit autour d'une maladie neurodégénérative assez rare qui s'appelle la DLFT, dégénérescence lobaire frontotemporale.
Qui n'est pas tellement connu finalement.
Non, qui est un peu plus connu maintenant parce que le pauvre Bruce Willis là. Mais et d'ailleurs, je le précise, il y a une association qui s'appelle France DFT qui nous soutient et justement qui a pour but de promouvoir les actions autour de cette maladie, etc. Une maladie qui fait perdre d'abord l'usage des mots. Donc moi, c'est une maladie que mon père a eue, et donc il y a eu cette envie d'écrire ce premier poème sur « J'ai perdu mes mots, comment perd ses clés ?» qui explique cette maladie.
Oui.
Et donc avec Héloïse, on en a fait cette première musique.
Oui.
Et ensuite, donc là, c'est encore très collé, moi, au personnage que je connaissais de ma vraie vie, donc c'est pour ça qu'on entend un peu ma maman et ma sœur aussi. Et ensuite, on a eu envie de faire vraiment une pièce de théâtre. Qui raconte toute cette histoire-là autour donc de avec un casting du coup que j'en profite pour citer, mais avec Marie-Béatrice Dardenne, Hélène Winchendou, Quentin Raymond, Héloïse Bloch à la mise en scène, moi à la musique et Tom Lefort à la régie.
Et Stéphane Licong qui joue le rôle du père dans la pièce.
Et Stéphane Licong pour le rôle du père. Et donc voilà, donc de partir de ce poème-là qui expliquait ce que c'était que cette maladie de manière un peu poétisée.
Parce que là, en fait, vous vous mettez à la place de votre père. C'est lui qui parle dans le...
Là, oui. Dans le poème,
dans le poème, c'est votre père, en fait.
Ouais. C'est
Et puis les grommellements qu'on entend, enfin c'est un peu des grommellements, c'est des bruits sourds de voix.
Alors il y a beaucoup de voix dans cette. Il y a en effet des archives où du coup on entend mon père en effet vocalisé. Et d'autres moments où on entend plus jeune, on entend ma sœur plus jeune, ma mère un peu plus
d'accord,
âgée. Voilà. Donc ouais, le but c'était de mettre dans cette musique-là des archives. Chose pour laquelle ensuite on s'est vraiment détaché quand on a écrit la pièce de théâtre, où le but était de partir de cet événement, mais vraiment de faire de l'autofiction. C'est comment créer, comment faire théâtre à partir de ce sujet dont je pensais pouvoir un point de vue intime, je dirais pas pertinent, mais en tout cas j'avais quelque chose à raconter parce que il y a des choses que j'avais vécues, mais donc j'avais l'impression de pouvoir faire une pièce de théâtre avec. Et donc c'est pour ça que ça n'est pas que c'est une sorte, une forme d'autofiction, mais voilà qui.
Et là où dans le poème, enfin et comment dire, raconte plutôt le père, la pièce de théâtre elle raconte surtout la famille.
Oui.
Le père
oui.
et la famille autour.
Mais,
et...
j'ai vu donc la pièce.
Hein, ouais.
Le père est quand même très très présent.
Ah bah oui, bah, évidemment, sûr. Il est du centre de
il est quand même très présent. Ouais. Mais effectivement, c'est ce qu'on peut appeler une chronique familiale. Mm. Hein, enfin, c'est une pièce familiale parce oui. que ça parle que des membres de la famille. Bon, il y a un petit peu de l'extérieur parce que le fils il va à l'université, il rencontre un prof de philo. Enfin bref, le père il va voir un orthophoniste. Il y a quelques passages de l'extérieur. La mère semble être professeure ou institutrice.
Oui,
voilà. Donc il y a des personnages extérieurs, mais la plupart du temps ça se passe au sein de la famille. Oui. À table, etc.
Oui.
Et puis, de temps en temps, on entend aussi le fils qui parle tout seul, qui se confie quelque part. Mm-hmm. Il y a la mère aussi qui se confie. Et il y a la fille aussi qui parle toute seule. Parce qu'en fin de compte, cette maladie, elle a bouleversé toute la famille.
Mm-hmm. Oui. Le prince à la tête de coton, c'est vraiment une pièce qu'on veut sur la famille et comment la famille continue de faire famille malgré tout. Bien sûr, il y a des moments dramatiques parce que c'est une maladie qui amène des situations comme beaucoup, malheureusement, maladies neurodégénératives qu'on assimile parfois à Alzheimer. Donc ça amène des moments de drame, mais c'est sûr aussi la tendresse qui persiste, les rires malgré tout. Comment on fait famille? Et du coup, en effet, il y a plusieurs moments qu'on distille de moments de monologue qui permettent de rentrer dans la tête du personnage donc, de Marie-Béatrice, du personnage qu'interprète Quentin, ou qu'interprète Hélène, ou qu'interprète Stéphane, qui nous permettent d'avoir accès à comment chacun gère ça.
Ouais. Chacun supporte la situation.
Ouais, c'est ça.
Mais à part le fils, qui à un moment donné se révolte, parce qu'il n'a pas compris, qui se révolte contre son père, parce qu'il ne comprend pas pourquoi son père, tout à coup, il oublie de venir le chercher à l'école. Il se met en colère contre son père.
Oui, il est en colère.
C'est au début de la maladie. Hein. Et méchamment, hein, il se met méchamment en colère. Oui.
Mais méchamment.
Mais comme les adolescents se mettent méchamment en colère contre leurs parents, malades ou pas.
La mère est beaucoup plus compréhensive, beaucoup plus tolérante.
Oui, on a essayé de montrer des manières très diverses de faire face à ça. Enfin, comment cette famille juste fait face à ça. Et c'est clair qu'un des axes du personnage qui s'appelle Alexandre, qui est le fils, c'est à un endroit la colère. C'est comment il va gérer ça, de perdre une figure paternelle. Là où, en effet, le personnage donc, de la femme qui est Amandine, sa problématique est plus comment faire pour continuer d'aimer quelqu'un sans les mots, qu'est-ce que c'est une relation d'amour sans mots, et surtout, qu'est-ce que c'est de se prendre d'un coup toute la charge mentale du foyer sur la tête, quoi.
Ouais, parce
donc
que
les problématiques ne sont pas tout à fait les mêmes en fonction des personnages et des fonctions qu'ils avaient dans la famille, quoi.
Globalement, on sent que c'est une famille aimante.
Oui.
Oui, c'est ce que j'ai voulu.
C'est important. Ouais.
Globalement, oui, ils sont solidaires. Je veux dire, bon, on ne le laisse pas tomber, on ne l'envoie pas tout de suite dans un EHPAD. Enfin, je veux dire...
ils essayent tout avant de devoir prendre des décisions.
C'est vrai. C'est pas... c'est véridique, parce que vous l'avez vécu.
Oui. Après, c'est pas... Moi, je n'y mets pas de... La question de l'EHPAD, la question de médicamenter les personnes qui sont atteintes de maladies neurodégénératives, moi, j'y mets pas du tout des jugements. D'ailleurs, dans la pièce, on en parle, hein, du moment où il faut médicamenter un proche. C'est aussi une pièce beaucoup sur les aidants, hein, sur ce que traversent les accompagnants. C'est dur, par exemple, de médicamenter quelqu'un qu'on aime. Donc, je n'y mets aucun jugement, mais par contre, c'est vrai que cette famille va essayer au maximum de faire ces choses-là, de retarder le plus tard possible tous ces événements-là. Et toujours de le faire avec le plus d'amour les uns pour les autres, de tendresse et d'unité.
Oui. Vous avez réussi alors, quand même, à garder. Enfin, disons que ça raconte aussi un peu de votre histoire.
Alors, ça raconte une partie théâtralisée encore une fois, parce qu'on voulait moi, je voulais vraiment me concentrer sur ces quatre personnages, et que si je faisais une biographie de Papy, il faudrait que je remercie tous les frères et sœurs de mon père qui nous ont aidés, tous les amis.
Oui,
voilà,
oui, ouais. Ça fait trop.
Mais, c'est un truc de groupe, quand même, ce genre
oui,
de...
Oui, oui.
Mais,
oui, puis il faut prendre un peu de distance aussi, parce que d'un point de vue émotionnel, quand même, c'est encore frais, je veux dire, cette histoire que vous avez vécue.
Oui, c'est encore frais. Ça date de... Ça m'a suivi du lycée jusqu'à la milieu de mes années de fac, quoi, à peu près.
Ah, c'est donc, ça. Ouais.
Ça, c'est des maladies qui s'étalent sur de longues périodes, sur une dizaine d'années. Et donc, en effet, c'est la famille va vivre plein de
mais
choses.
Mais une dizaine d'années, quoi. C'est beaucoup, hein.
Ouais.
Oui.
C'est une course de longue durée. C'est un marathon.
C'est un marathon.
Après, ouais. Si je peux me permettre, c'est ce que j'ai l'impression, ce dont on parlait aussi beaucoup avec Nicolas lors de la création, etc. L'avantage, c'est pas le bon mot, mais en tout cas, ce qui est beau dans le fait de, et c'est ta démarche de départ, de transformer une histoire personnelle en un objet théâtral, c'est que plus ça allait, et on en parlait pendant la création, plus ça s'éloigne aussi de... Et justement, ça permet de distancer, ça permet de trouver du plaisir, de la joie à raconter une histoire qui est douloureuse, mais parce que la nouvelle famille, qui est celle que vous voyez sur scène, n'est pas la famille de Nicolas. Et Stéphanie Kong est un acteur qui joue le père. Enfin voilà, et en fait, ça fait du bien aussi pour ça, j'imagine.
Oui, vous avez essayé de voir un peu... Finalement, quand on voit cette pièce, d'abord, il faut reconnaître que ce qui est bien, alors il y a déjà vous êtes danseuse hein, à la base, chanteuse, comédienne, et c'est vous qui faites la mise en scène.
Oui.
Et on sent effectivement que vous avez le sens de l'espace. C'est une pièce chorale, oui, parce qu'on entend les membres de la famille s'exprimer tour à tour, ensemble. Ouais. C'est très...
Après, ça, c'est l'écriture de Nicolas aussi. Il a écrit une pièce où il y a des parties dialoguées, il y a des parties chantées, il y a des parties qui sont écrites comme des poèmes ou comme des espèces de
monologues. Il y a un chant d'amour, oui.
Il y a un chant d'amour, il y a une espèce de déclaration à la mère.
Et surtout beaucoup de musique, hein, parce que Nicolas, vous êtes musicien.
Oui.
Oui.
Formation, je suis musicien. Donc c'est vrai que étant moi de musicien de formation et Louise étant comédienne de formation, mais qui a fait aussi beaucoup de danse, il se trouve que c'est un spectacle assez pluriel à ce niveau-là, où il y a pas mal de musique et où il y a pas mal de mouvements dans la manière dont et Louise en parlera mieux que moi, mais la mise en scène et la scénographie, c'est très lié au mouvement corporel. Ça raconte beaucoup de choses aussi par le corps, je crois.
Ouais, oui, mais les acteurs sont formidables. Hein. Moi, je les ai trouvés tous.
Oui.
Non, mais c'est vrai. Hein. J'ai ressenti comme ça. Et bravo pour le casting, parce que vous avez choisi des interprètes. Alors, celle qui joue la mère, je me souviens pas de son nom.
Marie-Béatrice Dardenne.
Ouais, et celle qui joue la fille.
Hélène Winchendouk.
Et voilà. Elles ont des voix chantantes. C'est super. Et la plupart de... la pièce, vous jouez de la sitar vietnamienne.
Oui, de la guitare aussi.
De la guitare.
Et de l'ordinateur.
Et de l'ordinateur. Oui. Et tout ça, de temps en temps, c'est très doux. Et puis parfois, c'est un peu tout seul, il me semble. Ça rythme complètement l'ensemble de la pièce, hein, la musique. Hein. Mais ce n'est pas une musique forte. Hein, c'est une musique, comme une respiration. Quoi. Mmh. Ouais. Oui, oui. C'était un spectacle presque, il y a un côté musical dans ce spectacle.
Ah oui, tout à fait.
Mmh. Merci, ça me fait plaisir. Je suis musicien de formation, donc là, je ne peux pas m'en empêcher. Après, on a eu un gros travail avec Héloïse sur ce que c'était de la musique pour le théâtre et comment rendre la musique pour le théâtre pertinente. Il y a de la musique de scène depuis toujours, hein, parce qu'on n'a pas inventé l'eau chaude non plus. Mais justement, comment faire en sorte, comment gérer les volumes, comment gérer... tout un tas de paramètres pour que ça fasse on fasse un sur scène, quoi.
Oui, et puis il y a des fois on a envie que la musique elle prenne toute la place et c'est ça qui raconte, c'est la musique, et puis parfois il faut qu'elle existe à peine, que ce soit comme une espèce de d'accompagnement de quelque chose qui vient un peu sous-tendre un propos.
Oui,
mais
ça,
parfois
c'est
il faut un peu l'oublier, et parfois on a envie qu'elle
explose. Ça c'est très très bien dosé, hein. Tout à fait.
Bah, ça, c'est moi, Nicolas Porcher.
Je l'ai drôlement ressenti. Et il y a des parties de poèmes. Alors, il y a un moment donné, donc, ça, c'est le titre de la pièce Le prince et la tête de coton.
Oui.
C'est tiré d'un conte.
C'est de moi. Hein.
C'est encore de vous.
Ça, c'est de moi, quand même.
C'est pas dans le berceau.
Non. Le prince à la tête de coton, c'est un conte qui raconte la même histoire que tout le reste de la pièce, mais de manière contée. Donc, sur un jeune prince qui, un jour, se met à perdre le sens de la gravité, disons. Donc, il se met à s'élever et il va grimper de plus en plus haut dans le ciel.
Ouais.
Jusqu'à ce qu'on ne le voit plus. Donc, il est la tête complètement dans un nuage, d'où le titre de la pièce. Et donc, voilà, on l'entend de moins en moins et on ne sait pas trop
où il est,
quoi faire. Donc, c'est cette idée-là de faire un petit conte philosophique. Moi, je sais que je suis très très fan d'Italo Calvino, qui a écrit un grand nombre de ce genre-là de pièces, comme Le Baron Perché.
Oui, d'accord.
Par exemple. Et donc, c'est très influencé de.
Et ce prince, en fait, à la tête de coton, c'est votre père.
Bah, c'est.
C'est ça. C'est sublimé, mais enfin, je veux dire, c'est votre.
C'est
quand
ça.
Même...
C'est le personnage du père dans la pièce, en effet, c'est. Encore une fois, le but, on a plein d'influences différentes. On aime le mouvement, on aime la musique, on aime le théâtre. Et donc là, c'était de raconter de manière différente, par le biais d'une idée d'un conte.
Comment votre père a fini par... Votre père a fini par s'envoler, quoi, je veux dire.
Oui, c'est ça. Il y a cette histoire-là. À la fois l'envol et du coup aussi, de manière très acoustique, j'ai envie de dire, plus quelqu'un est loin, moins on l'entend. Et je crois que c'est ça à la base qui m'intéressait dans ce conte-là, même si, bien entendu, la thématique de l'envol sous-tend plein de choses, y compris sur aussi la fin de vie. Mais il y a quand même aussi cette idée sur le début acoustique de qu'est-ce qu'il est en train de baragouiner là, qui a compris. Je sais pas trop. Il est très haut. Comment on fait pour le nourrir? Toutes ces questions-là, très pratiques, qui m'intéressent, très ludiques dans ce conte-là.
La reine à la fin, je spoil, mais
ouais.
la reine, un moment à la fin du poème, elle dit un des passages que j'aime beaucoup, qui est ne pas l'entendre ne veut pas dire qu'il ne parle pas. Et elle le répète un peu comme une espèce de petit mantra. Enfin, je sais pas comment dire, une espèce de petit.
Oui, parce que en fait, j'imagine que les membres de la famille ils ont été obligés au fur et à mesure de s'adapter. Au langage de votre père, enfin, ou des personnes qui sont atteintes de cette maladie. Il faut s'adapter aussi.
C'est beaucoup d'adaptation. Du coup, il y a beaucoup de vidéos aussi, ça vous intéresse, sur le site de France DFT, pour le coup, de personnes.
France DFT,
qui est l'association qui.
Ça s'écrit comment, France DFT?
Alors, France comme le pays.
DFT, c'est les lettres.
C'est des lettres. DFT, pour dégénérescence frontotemporale. Et on se rend compte qu'en effet, toutes ces histoires-là sont des histoires d'adaptation. De comment on fait. Et moi, il y a une phrase que j'aime bien, qui est tirée d'une chanson qui parle pas forcément d'ailleurs de ça, mais une phrase de Souchon qui dit « J'aime les hommes qui sont ce qu'ils peuvent ». Et pour moi, cette phrase, c'est ça. C'est sur des gens qui font ce qu'ils peuvent au moment où ça arrive. Et il va falloir s'adapter à tout un tas de choses. Dans la pièce, par exemple, le père, au début de la pièce, il adore cuisiner. Donc, on le laisse cuisiner parce qu'il reste ça. Donc,
oui,
et il finit par faire des plats complètement invraisemblables et, soyons honnêtes, immangeables.
Ah bon,
ça lui fait plaisir. Et donc, ça fait plaisir à la famille de voir qu'il a encore ça. Donc, on le laisse faire.
Oui.
Même si on finit par manger une ratatouille mélangée avec du coca.
Oui.
Mais ça, déjà, il faut qu'il y ait ce rire à ce moment-là. Et voilà comment on s'adapte, qu'est-ce qu'on continue de faire.
C'est une forme de langage aussi.
C'est ça.
Ouais,
donc,
ouais.
Toutes ces choses-là. Et je pense que chaque famille qui accompagne un proche... Et c'est pour ça qu'avec Héloïse, on est assez persuadé que ce récit qu'autofictionnel, il y a toujours un endroit dans l'autofiction où on pense qu'en parlant à un endroit d'intimité, on peut... parler de la société, en tout cas parler au collectif. Et typiquement, cette pièce, elle est tout le monde à accompagner un proche à un endroit, à un moment donné. Et donc, à cet endroit-là, je pense que c'est une pièce qui peut vraiment résonner chez beaucoup, beaucoup de gens, qui est une pièce qui parle de beaucoup de l'accompagnant, de qu'est-ce que c'est qu'accompagner, et qu'est-ce que c'est qu'aussi... quand on est atteint de cette maladie-là, qu'est-ce qu'on fait, quoi?
Oui, c'est ça, oui. Parce qu'il a quand même accompagné par votre père, ou la personne qui est atteinte de cette maladie. Il est un orthophoniste. Et je vois que dans la pièce, il s'appelle Jacques, donc, il tient son journal. Et on l'entend, l'entend dire son journal. Alors, c'est vrai que progressivement, il perd ses mots, effectivement. Mais il a quand même le courage de tenir un journal.
Oui.
Hein, je trouve ça assez... assez surprenant. Enfin, je veux dire...
C'est une des grandes questions que je pense qui sous-tend la pièce. C'est à cet endroit-là, comment penser sans mots. Moi, c'est toujours une des questions qui m'a le plus foutu le vertige.
Oui.
Moi, quand j'ai envie de manger des pâtes, je me dis, j'ai envie de manger des pâtes. Et donc, c'est cet endroit-là où, sur les maladies, où malheureusement, une des premières pertes, c'est le langage. Comment penser sans mots? Et du coup, qu'est-ce qui reste de, est-ce que ça devient un langage plutôt émotionnel? Comment on trouve des mots? Comment on trouve des gestes pour remplacer les mots? C'est une des grandes questions de la pièce, je pense, en effet.
Oui, c'est
et donc
vrai.
Ce journal-là, la perte des mots, elle représente beaucoup ça pour moi, quoi. Mmh.
Oui, c'est vrai. Ça résonne. À un moment donné, le fils qui suit des cours de philo, il se demande, mais qu'est-ce que c'est que un homme qui ne peut plus parler, qui ne peut plus avoir de mots, finalement, il se résume à être un animal.
Mmh. Oui, il a une phrase assez violente de. En réalité, d'après, j'ai pas envie que tous les profs de philo qui écoutent ça, tu sais, on tombe dessus. Mais de ce que je pense du second discours de Rousseau, il y a cet endroit où ce qui différencie l'homme de l'animal est la perfectibilité et la capacité à se perfectionner, et qu'en fait, si on l'a plus, notamment parce qu'on perd le langage et qu'on a même une maladie neurodégénérative, donc quelque part par définition, on perd cette capacité à se perfectionner. Mmh. Et ben, étant donné que pour Rousseau, c'est ce qui différencie l'homme de l'animal. Oui. Cet adolescent qui est en pleine construction de lui-même se dit, ah, d'un coup, en fait, ok, c'est ça, mon père n'est peut-être plus un être humain.
Oui, c'est ça.
C'est des questions violentes, et je pense que c'est des questions violentes que des fois, que le personnage du fils se pose dans la pièce, et que c'est pas du tout une question que je juge, mais par contre, j'ai envie de vraiment traiter dans la pièce le trajet, par exemple, de ce personnage-là qui va devoir faire de son père un père, malgré tout, et trouver des moyens de le faire, alors même qu'il y a des questions d'une grande violence qu'il traverse, quoi.
Oui. Mais c'est justement, je trouve que c'est intéressant de poser le problème. Parce qu'après tout, on n'est pas tous des anges, hein. On est loin d'être des anges, hein,
Ça justifie Enfin, tout à l'heure, quand on discutait avant de se retrouver ici, vous disiez, oui, il est très en colère, Alexandre, il est même parfois très très dur et tout dans la pièce. Donc Alexandre, c'est le fils. Et en fait, en tout cas, j'ai l'impression que le fait qu'on le voit dans son intimité à lui, sans sa famille, face à son prof de philo, et qu'on comprenne qu'il se pose ce genre de questions ultra violentes, pour moi, ça justifie, mais ça nous permet d'expliquer quand même le fait qu'il puisse être lui-même aussi dur et aussi violent face à sa propre famille, puisqu'il est, il se sent lui-même très très heurté, quoi. Donc,
Mais je pense que
dans sa tête, ça nous permet d'avoir de l'empathie pour lui et de pouvoir comprendre où il est lui-même en tant que jeune homme dans cette situation. Donc, on en a besoin.
Et ça, c'est un problème auquel sont confrontés effectivement tous les aidants, tous les accompagnants, parce que effectivement, ça touche la personne qui est malade, mais l'entourage. C'est une épreuve, hein. J'imagine.
C'est pour tout le monde. Ça se répercute sur absolument tout le monde. Et c'est la pièce en tout cas qu'on a voulu écrire, c'est de raconter comment chaque personne, le père, la mère et les deux enfants, vont gérer individuellement leur situation pour résoudre les préoccupations personnelles que ça leur fait ressurgir, et comment cette grande pluralité continue de faire famille ensemble, quoi.
Ouais, tout à fait. Alors, c'est vrai que ça a l'air assez grave comme sujet, mais...
Une comédie.
C'est grave, c'est pas une comédie de boulevard, je suis désolée. Il y a des gens qui aiment le boulevard, bon, c'est pas du boulevard. Mais, je le disais, je vais me répéter, il y a la musique qui tout au long de la pièce, qui ça baigne quand même dans la musique, on voit bien que vous êtes musicien, ça c'est sûr. Et puis, il y a les dialogues, et des textes que je trouvais de très poétiques, hein, très très poétiques. Et alors j'aimais beaucoup aussi le. Bon, je vais pas trop vous retenir parce que on avait dit qu'on ne resterait pas trop longtemps. qu'est-ce que je voulais dire? J'aimais bien aussi le début du texte où il est question du dictionnaire.
Oui.
Ah, j'adore ça.
C'est la toute première.
Ouais, Nicolas, vous voulez pas me lire le début du dictionnaire?
Alors, n'étant complètement pas comédien, peut-être je propose à Héloïse de...
Non, je voudrais une voix d'homme.
Une voix d'homme, attention. Allez.
Prends
ta voix d'homme.
Alors, C'est parti. Donc c'est le personnage d'Alexandre qui dit ce tout premier, c'est le texte d'ouverture. Vous m'arrêtez quand il faut que je m'arrête, bien sûr. J'ai lu le dictionnaire en entier, sans commencer par le milieu, de la première à la dernière page, sans relire une fois la même ligne, sans le reposer avant d'avoir fini. Un dictionnaire n'en rajoute pas. Il émeut dans l'espace vide qu'il laisse entre deux termes. Deuil, deus ex machina. Amortisseur, amouillante, amour. Je ferme les yeux et une vieille Renault Scénic vert pomme m'apparaît. Le même modèle que celui avec lequel nous partions à la plage, mes parents, ma sœur et moi. Le sable lui irrite les sièges, elle sursaute et branle. Oui, dans la voiture de mon enfance, ça sent la gomme brûlée, la cendre et la marée basse. Je tourne la page et je repense à tous ces mots que je ne reverrai jamais. Perdu, perduré, père. Un dictionnaire est une autoroute, une ligne droite qui file sans nostalgie, à travers des forêts de termes savants, populaires, rares ou communs, qui ne seront jamais énoncés qu'une fois. Un dictionnaire est un musée où le chef-d'œuvre est voisin du cheesecake, le haïku des haillons, et où le bateau vogue à plusieurs pages du gâteau, auquel il ressemble tant. J'ai rêvé d'un dictionnaire à visage d'homme. J'ai rêvé d'un incendie et d'un pingouin avare, jouant au tennis, sur une table. Ping-pong, pingre, pingouin. J'ai rêvé d'une dictée, habillée en militaire. Dictée, dictature. J'ai rêvé qu'on voguait tous ensemble sur un voilier en coton. Coton, côtoyer, côtre. Éoupé, EHPAD, théorème d'Ehrenfest. J'ai rêvé qu'on élaguait la cime de ma famille dans un hospice que je ne comprenais pas.
Merci. 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 Alors, vous allez quand même dire où ça se passe. Hein,
parce que... Oui, ça se passe.
Et voilà, ça se joue jusqu'au...
Ça se joue jusqu'au 16 mars, tous les samedis à 19h, au Théâtre La Flèche, à Paris.
77 rue de Charonne.
77 rue de Charonne. Et on rejoue en septembre dans le Morvan, à Toulon-sur-Arroux. Si jamais vous êtes dans le Morvan, que vous voulez venir nous voir, n'hésitez pas. Est-ce que j'oublie des choses, Louise?
Pour voir le spectacle, non. On n'oublie rien.
Alors, on va écouter la bande. Alors, c'est le dernier mail que je t'ai envoyé. voilà. On va écouter votre
c'est
musique.
C'est le thème principal de la pièce.
De la pièce.
Thank you.
Voilà, alors c'était une belle musique, oui. Créée par Nicolas Porcher. Mais Nicolas, juste une question subsidiaire, avez-vous un prénom vietnamien?
Non. Ah. Et non, quelle tristesse. Non. Mais par contre, en effet, il se trouve que cette pièce, c'est une famille franco-vietnamienne qui est représentée au plateau. Et, mais malheureusement, je n'ai pas de prénom vietnamien.
Il faut demander à votre... votre père, c'est vrai, il est parti, mais il faut demander à quelqu'un de vous donner un prénom
de
vietnamien.
De m'en prédonner un. Très bien. Voilà. J'y cours.
Voilà. Bon, donc il reste 3 samedis. Aujourd'hui,
aujourd'hui on est le 2 mars, le 9 mars et le 16 mars qui sera notre dernière parisienne pour cette première exploitation.
Voilà.
Le prince à la tête de coton.
Voilà, écoutez, c'est un très beau spectacle et toutes les personnes qui auront la possibilité d'y aller, je les convie, je les invite fortement à aller soutenir, surtout qu'en plus vous êtes tout jeune, hein,
à peine une dizaine d'années.
Non.
Mon micro, c'est l'avantage, de la radio.
Vous avez moins de 30 ans.
J'ai moins de 30 ans, absolument.
Voilà. Merci beaucoup. C'est la relève. Hein.
Merci de nous avoir
accueillis. Bonne continuation.
Merci.
Et puis n'hésitez pas à contacter Radio Libertaires quand vous aurez un autre spectacle. Hein.
Okay. Merci.
Ou une autre date.
Oui.
Merci beaucoup.
Vin de la Trinité. Il déposa son sac aux pieds de son hôtesse. Dans un bar pavoisé par toutes les promesses, le bistrot de Simone, à l'autre bout du quai. Qui donc a entendu cette vieille histoire-là? Qui donc l'a racontée tout bas, de porte en porte? Chez Daisy, chez Simone ou chez Encarnita? Qui l'a confiée au vent de la rue morte. Simone aimait les matelots aiment qui les aiment, et moi je peux penser de même, car c'est là mon moindre défaut. Et si la mer plaît aux Bretons, c'est qu'elle les tient. Et tant pis pour qui mal y pense, ça n'a vraiment pas d'importance. Un homme qui revenait de Gibraltar port franc avait dit à Simone, on ira en Afrique, à Zanzibar au lieu de boulotter des briques, je te couvrirai d'or, mais qui vaut mieux l'argent. Tu reviendras à Nantes quand il en sera temps, dans le jour enchanté de notre indépendance. Quant à ton homme Simone, c'est une affaire de sang, et ça n'a vraiment pas une si grande importance. Simone aimait les matelots aiment qui les aiment, et moi je peux penser de même, car c'est là mon moindre défaut. Et si la mer plaît aux Bretons, c'est qu'elle les tient en son giron. Et tant pis pour qui mal y pense, ça n'a vraiment pas d'importance. Simone ne sut jamais le vrai mot de la fin. Les quarts de la police sonnaient partout l'alarme. Les filles jacassaient au milieu du vacarme, et pendant quelques jours, ce ne fut qu'un refrain. À peine chuchoté dans tout le clandestin, un refrain qui n'était qu'une histoire de bagarre entre le gars de Nantes et l'homme du destin. À l'heure fatidique où les couteaux s'égarent, Simone aimait. J'irai crêcher à Meudon devant la Seine et ses chansons, pour prendre un grand coup d'innocence.
Alors, notre invité Frédéric est arrivé.
Oui, bonjour.
Bonjour, elle a de jolies lunettes orangées.
Ouais.
J'adore, ça, c'est super lunettes.
Ouais, super, ouais.
Vraiment original.
Bon.
Alors, on va parler de ton prochain spectacle. Hein.
Oui,
voilà.
Tout à fait.
Juste un petit peu avant,
c'est un chouïa de
Anne Delalleux.
Voilà.
Et un petit poème, un tout petit poème pour dire coucou à Jean-Marie.
Jean-Marie, bien sûr.
Juste après. Et après, ce sera pour toi, on dresse le tapis rouge pour Frédéric. Voilà.
Voilà.
OK.
Voilà. Donc, alors moi, je voulais vous parler d'un spectacle que j'ai vu qui s'appelle... c'est au Bélier parisien. J'aime bien ce théâtre. C'est aussi le Bélier à Avignon, d'ailleurs. C'est la même...
Oui, peut-être.
Le spectacle, la pièce s'appelle « Je m'appelle Asher Lev ». C'est d'après le roman de Chaim Potok, c'est une adaptation de roman. C'est dans le Brooklyn d'après-guerre, Asher Lev est un jeune garçon qui dessine comme il respire. Il adore dessiner, mais malheureusement, il est dans une famille très pratiquante juive orthodoxe qui n'accepte pas, par exemple, les dessins académiques, même de nus et tout ça. Alors là, mon Dieu, c'est une horreur, c'est vraiment affreux. Et bon, il a du mal à s'imposer, à respecter les traditions, à respecter ses parents qu'il aime et qu'il adore naturellement, et à faire son choix de vie. Donc c'est ça se passe donc au théâtre des Béliers parisiens. C'est une belle comédie, très bien jouée, du mardi au samedi à 19h, le dimanche à 17h. Et puis je vais faire une petite annonce. On a reçu Myriam Boyer. Elle reprend son spectacle Juste un souvenir à partir du 10 mars au Poche Montparnasse, tous les dimanches à 15h. Mm-hmm. Il y a aussi, on avait reçu aussi, si j'ose dire, Lennon et McCartney, il y a deux ans. Ça,
il y a un an.
Un an et demi à peu près, oui.
Un an.
Oui, tu as raison. Tu as toujours raison.
Mais non, mais deux ans, j'ai fait le bilan 23, là.
Oui, tu as raison. Oui. Au Funambule Montmartre, il joue en ce moment, à partir du 7 mars. Alors, du jeudi au samedi, c'est soit 21h, soit 19h. Vous voyez sur leur site, le site du Funambule Montmartre, du jeudi au samedi, et le dimanche, ça sera 16h ou 20h. Et notre Popek National y reprend du service, dites donc, au Théâtre de Passy, à partir du 17 mars, tous les dimanches à 19h15. Voilà.
Dis donc, il a la santé, Popek.
Il a la santé.
Donc, il a tenu une émission pendant 1h30.
Oui, c'était très bien, c'était très marrant, très, très sympathique.
Voilà.
Et bien, c'est tout, ma chère Evelyne.
Alors, on va passer à Jean-Marie, un poème. Et ensuite, ce sera
Frédéric.
On va cuisiner Frédéric.
Château.
Dans la forêt silencieuse, la lune couleur de sang. Dans la forêt silencieuse, la nuit n'est pas encore venue, et l'orage de la tristesse n'a pas encore injurié les feuilles. Dans la forêt silencieuse, d'où les dryades ont fui, les dryades ne viendront plus. Dans la forêt silencieuse, le ruisseau n'a plus de vagues, car le torrent coule presque sans eau et tourne. Dans la forêt silencieuse, il y a un arbre noir, comme le noir. Et derrière l'arbre, il y a un arbuste qui a la forme d'une tête et qui est enflammé des flammes du sang et de l'or. Dans la forêt silencieuse, où les dryades ne reviendront plus, il y a trois beaux chevaux noirs. Ce sont les beaux chevaux des rois mages. Et les rois mages ne sont plus sur leurs chevaux, ni ailleurs. Et ces chevaux parlent comme des hommes. Tristesse d'eau. Vierge qui pâme au bord d'un puits bordé de fleurs. Ô grandissime floraison. Horizon qui gardait mon âme et sans raison ses pleurs. d'enfant pâle, ses pleurs, langueur d'attendre des nouvelles venant de l'hiver sans couleur, océan. Ta pioche et ta pelle sont un bruit le soir qui fait peur. Parfois Dieu passe, que précèdent des formes que l'on ne comprend pas plus que vos métaphores. Prophète des morts, des ciels et d'ici-bas. Craquements au bois de la porte. Un masque. Je le reconnais. C'est celui d'une dame morte qui fait ma tristesse à jamais. Tristesse d'eau et ce qu'on guette. Déjà ma mort. Par la fenêtre, la nuit, la mer et les absents. Le buisson qui meurt des tempêtes. Et la lune, couleur de sang.
Table là. Alors, aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Frédéric. Ça fait quand même quelque temps que,
bah oui.
que tu n'es pas venu.
Non.
Alors, tu as fait un beau spectacle, paraît-il. Moi, j'y étais pas, je suis désolée, à Publico. Voilà, qui était organisé par Patrick Kipper.
Oui, voilà.
Et ça s'est bien passé. Hein.
Ah oui, très bien. Ah oui, tout à
voilà.
fait.
Voilà. Tu peux nous en dire un peu plus, parce que c'est un spectacle qui va tourner.
C'est un spectacle qui devrait tourner, oui, ben oui, on l'espère.
Ouais, ouais.
Ouais, ouais, ben enfin, en fait, c'était l'avant-première et une présentation pas complète, mais une présentation voilà, globale. Il manquait un petit bout et deux, trois petites choses, mais pas grand-chose finalement. Et donc, c'est un spectacle qui a été créé un peu à la demande, quoi, pour être joué à Charleville. Il va être créé en entier, oui, un peu de Rimbaud. Enfin, ça, c'était un peu la condition sine qua non. Hein.
Ouais.
C'était un peu la figure imposée, on va dire. Mais sans problème, hein, parce que moi, j'adore. Donc, et c'est en fait... bon, c'était un petit peu plus formel au départ, mais en fait, c'est programmé maintenant d'une manière... Un peu libre, quoi. C'est plus dans le cadre d'un festival poétique. Et en fait, ça se trouvait dans un festival poétique à l'origine, normalement. Et puis, ça a été reporté, voilà. Donc, ça va se faire maintenant, bientôt, dans pas très longtemps. Et voilà pourquoi j'avais envie de faire... de le tester un peu, parce qu'il y a... Il y a différentes choses dedans. Il y a de la poésie, de la peinture. C'est un spectacle sur la peinture, on va dire. Voilà, via des textes poétiques et des chansons.
Ah, voilà. Ouais. Alors, oui, c'est-à-dire qu'il y aura des textes, parce que tu es comédienne aussi, hein, tu n'es pas seulement chanteuse.
Oui, oui. C'est même ça que je faisais, que j'ai fait très longtemps avant de me mettre à chanter, quoi. Voilà, c'était comédienne et voilà. Metteur en scène.
Donc,
aussi.
Il va y avoir des textes et des chansons. Donc, voilà. Alors, les chansons... la musique, ce sont des chansons qui ont déjà été chantées.
Ah, mais oui, tout à fait. Oui, oui.
Alors, il y a peut-être Nougaro.
Oui, il y a Nougaro, alors avec une chanson qu'on entendra peut-être tout à l'heure, j'espère.
Oui.
Une chanson qui n'est pas très connue.
Le déjeuner sur l'herbe, c'est ça?
C'est ça, oui, oui. Voilà. Ben voilà, le déjeuner sur l'herbe, bon, elle n'est pas super connue, mais elle est super aussi comme chanson. J'aime beaucoup Nougaro. Enfin, tout ce qu'il y a là-dedans, évidemment, j'adore, hein, sinon ouais. Ce ne serait pas là, mais il y a Aragon aussi, avec mis en musique par Ferrat. Il y a également Rimbaud, mis en musique par Ferré, qu'on va entendre. Hein,
voilà. Oui, les corbeaux, c'est ça.
Et
oui.
Voilà, les corbeaux. Et puis, on a encore un autre Ferré, que j'adore également. Voilà, j'ai un spectacle sur Ferré, d'ailleurs, il y a quelques temps. Et c'est les forains. Voilà.
Les forains.
Oui, parce qu'on parle un peu de l'univers forain, pour commencer, dans le spectacle. Voilà.
D'accord.
Et on en arrive à... la toute première chanson, qui est celle sans doute qu'on entendra en premier ce soir, j'en sais rien du tout, mais je me hasarde.
Ah, vas-y, vas-y.
Ben, c'est le Cosimon, quoi.
Le Funambule.
Oui, oui, voilà.
Ah, ben voilà. Mais,
oui. Voilà, d'où le titre, Le Voyage Suspendu, ça s'appelle comme ça.
Ah, Le Voyage Suspendu.
Ouais.
Ouais. Ben, peut-être qu'on va l'écouter, alors. Hein,
le ben, peut-être, oui, c'est une bonne idée.
De tous ses copains du cirque forain, pas un n'avait dit au vieux funambule qu'il était aussi parfois somnambule. Ça n'aurait servi strictement à rien. Le public partit quand la lune dehors, à travers les trous de la vieille toile, allumait un ciel tout rempli d'étoiles. Le vieux funambule arrivait alors. Qui n'était pas tellement sûr de lui, qui souffrait des reins, qui avait des vertiges, était tout changé, c'était un prodige. Oui, c'était vraiment le jour et la nuit. Plus besoin d'ombrelle ou de balancier, les sauts périlleux devenaient faciles. Il était gracieux, il était agile, comme un demi-dieu sur son fil d'acier. Ce fut ainsi qu'un enfant le vit, un enfant puni ou un fils de pauvre, qui s'était glissé dans l'odeur des fauves et qui le suivait d'un regard ravi. Spectateur fortuit de ce numéro, l'enfant applaudit à tant de merveilles, mais un somnambule, quand on le réveille, comme un funambule, ça tombe de haut. Tous ses copains du cirque forain, pas un n'avait dit au vieux funambule qu'il était aussi parfois somnambule. Les gens du voyage sont des gens très bien.
Oui, alors je te demandais, Frédéric, le spectacle donc, qui va avoir lieu à Charleville.
Alors, il va avoir lieu à Charleville, cette fois-ci, dans sa forme, a priori, définitive. Ouais. Voilà, cette fois-ci. Et oui, il va avoir lieu à Charleville, c'est ça.
Et c'est dans...
C'est une création.
C'est une création dans, dans un théâtre
Oui, c'est une salle de théâtre... qui s'appelle la Maison de la Culture et des Loisirs. C'est un gros truc.
Ah oui, quand même.
Oui, quand même, assez gros truc.
Mais tu es connue là-bas, à Charleville.
Oui, je suis connue, je suis encore connue. Mais, je suis encore connue, mais c'est marrant que tu dis ça, parce que je me suis dit qu'on allait forcément en parler. On va en parler, d'ailleurs.
Mmh, ouais.
Parce que nous, nous connaissons depuis quand, Evelyne, si tu te souviens bien.
Oh ben moi, je compte pas les années. Hein.
Non, mais je parle même pas en termes d'années, parce que oui, moi, je les ai pas comptées non plus, mais où est-ce qu'on s'est rencontrés?
Ben, certainement à Radio Libertaire, hein, c'est probable.
Eh ben non,
hein.
Non,
c'est à Charleville.
Mais on s'est rencontrés à Charleville,
oui,
Evelyne.
Parce que
c'est là qu'on s'est rencontrés toutes les deux, avec Jean-Marie, pareil.
Oui, parce qu'en fait...
Grâce à Francis...
Francis Gingembre.
Le peintre.
Le peintre. et puis François Floris.
Et François Floris, mais qui n'était pas là.
Parce Parce que je crois qu'on est, on est venu deux fois.
Pas là, lui, alors.
On est venu deux fois pour le Festival des marionnettes.
Voilà, ouais. Dont une fois.
Et il y avait François Floris, sa famille, sa mère qui habitait à Charleville. Il est de Charleville.
Oui, je sais.
Les comédiens, ouais.
Oui.
Il est venu ici même présenter une pièce. C'est un ami de Jean-Marie. Et oui, c'est peut-être ça. Et je t'ai vu chanter dans un café à Charleville.
Oui.
Je t'ai entendu chanter.
Un café qui s'appelait le Rimbaud avant.
Ouais.
Très étonnant. Et voilà, un café dans lequel j'allais quand j'étais ado, passer des soirées, des nuits, on va dire, carrément. Et c'était un endroit super. Et là, c'était devenu une brasserie, une micro-brasserie, dirigée, créée par des amis, quoi, qui ont créé la première microbrasserie de tout le coin là-bas. C'était, il n'y avait pas du tout de microbrasserie en France dans ce coin-là, du tout. Par contre, de l'autre côté de la frontière, il y en avait forcément. C'est la Belgique, hein.
Oui. Voilà.
C'est
oui,
juste
oui.
à côté.
Oui, c'est juste
Mais
à côté.
Mais voilà, ils ont créé donc la PBA qui existe toujours, qui n'est plus tout à fait pareille. Je dois le dire, je la trouve moins bien maintenant, mais bon, elle était super bonne cette bière, et tirée à très peu d'exemplaires en fait. Il y avait une toute petite production, voilà. Et c'est dans cet endroit qui était à ce moment-là géré par des demoiselles qu'on s'est retrouvés.
Oui. Il y avait de l'ambiance, hein. Tu mettais de l'ambiance. Hein.
Il y a une super ambiance. Ouais.
Ouais.
C'est vrai.
Oui.
C'est-à-dire que Francis ne m'avait pas prévenu. Hein.
Oui.
Il m'avait juste dit qu'il serait là. Mm-hmm. Et puis Francis, bon, c'est un ami de longue date.
Ouais.
Bah, c'est un ami d'enfance quasi.
Oui.
On se connaît depuis plus de 50 ans, donc ça commence à faire. Quoi. Mm-hmm. Et voilà, donc mon ami Francis, il m'a dit, bah oui, écoute, voilà, j'y serai, je viendrai avec ma copine. Et puis... Bon, on verra, peut-être un pote qui viendra. Et en fait, il avait ameuté tout ce que je connaissais comme copain, que j'avais pas vu depuis 20 ans, ou 30 ans, certains. Bah, j'ai eu du mal à chanter, en fait. C'était un peu émouvant. J'ai eu vraiment du mal à me concentrer, parce que je découvrais dans la salle des visages que je reconnaissais plus ou moins, parce qu'on avait pris un coup de vieux, quand même. Et...
Non, on prend un coup de vieux toutes les minutes. Hein.
Voilà. J'ai pris un petit coup de vieux tout de même. Ouais. Non, mais je rappelle cette histoire-là parce que c'est quand même incroyable voilà, que je sois là. Je viens de présenter un spectacle qui va jouer là-bas. C'est drôle. Je trouve ça marrant.
C'est bien parce que moi, Charleville, j'ai des bons souvenirs de Charleville.
Bah, hein, oui,
pas
hein.
de problème.
C'est
le
normal.
Les marionnettes, François voilà. Floris. Bon, on est allé, c'était au mois de septembre, je crois. Enfin, c'est.
C'est au mois de septembre pour le festival. Hein.
Ah, c'est ça.
À mon avis, deux fois, si vous êtes allé au mois de septembre, ça peut être que pour ça. Et je me souviens très bien que c'était dans le cadre du festival que je chantais. Donc,
oui, c'est ça.
Voilà.
Ouais.
Parce que c'est une occasion aussi de faire quelques trucs comme ça, mais c'est pas vraiment. Avant, c'était carrément le festival qui organisait une scène où j'ai chanté aussi. Qui faisait ça les dernières années, puis ça a changé de direction, et là maintenant il n'y a plus rien de tout ça.
Ah bon ?
C'est bien dommage.
Oui.
C'est bien triste, ma foi, je trouve. Non, mais
alors,
c'est vrai.
Alors je voulais te demander, parce que c'est quand même curieux, je trouve ça très bien, mais je veux dire, inclure. Alors parce que tu me dis, il y a des chansons, des poèmes, et il y a des textes sur les peintres.
Et bien sûr,
et voilà.
On va parler de peinture, donc c'est un
on
petit
va
peu...
parler de peinture.
C'est et pas très bizarre.
Non,
ça
c'est
parle
pas ça.
De poésie et de peinture.
Ah
c'est
voilà.
En fait...
Non, je dis pas. Oui, j'ai tort de dire que c'est bizarre. C'est pas fréquent.
Mais si tu as raison, si tu trouves ça bizarre, c'est pas grave.
Non, mais c'est pas fréquent d'adjoindre la peinture et la poésie, bien que il y a beaucoup de poètes qui parlent de peinture.
Voilà. Alors, faut savoir une chose qui est absolument bizarre aussi, que tu vas trouver bizarre peut-être.
Bon, je trouve tout bizarre.
Voilà, d'accord. Bon, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que depuis l'Antiquité, la poésie et la peinture sont liées. Enfin, dans l'Antiquité, il y avait des écrits là-dessus, très nombreux, que j'ai potassés d'ailleurs, parce que j'ai découvert ça, alors que j'avais décrété que j'allais faire un spectacle sur la peinture et la poésie. Donc, des textes sur la peinture, des poésies qui parleraient éventuellement de peinture ou de peintre, et donc forcément des chansons, parce que bon, voilà, la poésie sur la peinture, ça, Ça s'écoute, c'est bien d'écouter de la poésie, mais c'est encore mieux quand c'est chanté, je trouve, parce que ça a quelque chose de plus populaire, de plus accessible. Comme de toute façon, je fais pas des choses forcément très accessibles tout le temps. On va dire, c'est pas forcément accessible la poésie. Vous verriez la tête qui tire quand je vais proposer mes spectacles parfois en disant c'est de la poésie. Alors déjà, je les vois. Pas lire.
Mais c'est idiot. Enfin, c'est... Non, mais c'est pas ça.
Mais c'est comme ça. C'est comme ça parce que, en fait, je ne pense pas qu'ils soient rendus compte que c'est un truc vivant, quoi. C'est quelque chose de très vivant, la poésie. Et d'un seul coup, comme c'est pas très populaire, quand tu y ajoutes la peinture, alors là, t'es mort, quoi. T'es carrément.
Là, non, il paraît.
C'est mal parti, quoi.
Il paraît que les couleurs. Elle s'associe à des.
Absolument.
À des sons. Mmh. Hein, les couleurs. Les peintres, il y a des peintres qui sont musiciens et des musiciens qui sont peintres.
Francis, par exemple, qui est saxophoniste, qui se débrouille très très bien comme musicien aussi. Hein. Il est vraiment musicien, Francis. Oui, et bon, il y a beaucoup de peintres qui sont musiciens.
Il y a beaucoup de correspondances,
voire qui sont poètes, quoi. Soit musicien, soit poète, tu vois. Il y a beaucoup, beaucoup d'associations, mais pour moi, c'était une évidence. Alors, pour moi, comme c'était une évidence, j'avais proposé ça parce qu'ils m'ont demandé un projet. Il fallait que je le ponde dans les 15 jours, quoi. Un truc de fou. Non, parce que ça leur est tombé dessus comme ça. C'était une espèce de commande. Mais voilà, de commande du ministère, en gros. Hein.
Ah oui, d'accord. Ouais.
Oui, voilà. Donc, tu vois ce que je suis... J'ai intérêt à me tenir un peu à carreau et que ça se passe bien.
Oui.
Non, ça se passera bien. Hein.
Oui, il n'y a pas de raison.
Je
ne
suis pas très inquiète. Mais voilà, j'y ai en plus ajouté un truc ou deux qui sont... des moments burlesques. Ça, c'est vraiment mon truc, le burlesque. Alors, voilà. Ben oui. Parce que tout ça, c'est quand même assez... parfois un peu lourd. Pas trop lourd, quand même. J'ai pas insisté sur le côté lourd, bien que le texte que je vais vous lire, il est pas léger. Mais c'est pas non plus la fin du monde, quoi. Tu vois sont des choses nostalgiques, poétiques, poignantes. Bon. Mais... je ne peux pas m'empêcher de faire le clown à un moment donné, c'est comme ça. Et c'est ce que j'ai fait à Publico, ce qui a beaucoup étonné, parce que bon, on s'attendait pas à ça. Et m'ont dit, mais il y avait du burlesque aussi, tu fais ça? Ben, j'en dis oui. J'ai même fait ça pendant une bonne quinzaine d'années sur scène, en mettant en scène, quoi.
Ah ouais?
Oui, oui. Ben, l'univers de... c'est proche, on va dire, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est l'univers de Jérôme Deschamps, quoi, tu vois.
Ah oui, d'accord.
C'est cet univers-là, très physique, très visuel, et avec du texte.
Quels sont les textes qui sont burlesques, alors?
Il n'y a pas de texte burlesque,
c'est
ce sont
toi
des
qui
passages.
C'est toi moi qui est
oui,
avec ton
bah
corps,
oui, c'est moi.
Tes gestes,
bah, c'est moi.
C'est moi. C'est toi qui est burlesque.
Oui, voilà, c'est moi qui suis burlesque. Mais je ne dis pas, c'est une surprise.
Ah, d'accord.
C'est un invité.
Bah, la radio, ça ne se voit pas trop, quoi.
Mais en vrai, il faudra venir voir.
D'accord.
Soit venir voir là, à Paris, si on ne peut pas faire autrement. Soit venir là-bas, éventuellement. Bon, ça fait un peu loin, c'est vrai. Mais bon, je vous tiendrai au courant en ce qui concerne les représentations dans le coin. Il y en aura d'autres. Ça, on va revenir à Paris, c'est bien évident. Et pour vous dire quoi, ben, le burlesque, parce que ça se marie bien, parce que le burlesque, c'est un peu le côté BD aussi en même temps. Quoi. Ça dédramatise.
Oui,
ça
fait des textes un peu graves. Il y a des textes un petit peu...
Et même s'il n'y avait pas de texte grave, il y a des contrepoints. Moi, je trouve que au théâtre, on parle de rythme, on parle de respiration.
Ouais.
Il faut que le spectacle, il respire, quoi.
Oui, oui, d'accord.
Alors, on peut aussi aimer les longues agonies. Et ça peut se défendre très, très bien. Je ne suis pas contre les longues agonies, j'adore ça.
Le côté plaintif.
Ah oui, non, mais attends, les longues... Je parle pas des mélopées.
Non.
Les longues agonies, je parle d'un truc tragique d'un bout à l'autre.
Ah oui.
Et ça finit mal.
Oui, mais alors, c'est du mélodrame.
Pas forcément.
Un petit peu.
Alors, le mélodrame, c'est forcément un truc un peu romanesque. Et là, je ne parle pas de ça, vraiment.
Parce que le mélodrame, ça fait rire. Je suis désolée, mais parfois, ça fait rire.
Non, mais le mélodrame, si c'est mal joué, oui, ça fait beaucoup oui, ça, rire. Ça
bah, quand mais on dit si mélo, ça
si
fait...
Si c'est bien, c'est... oui, mais quand on le dit en péjoratif, mais bon, mélodrame, c'est pas forcément moche. Hein.
Non,
mais
non,
c'est
non.
juste pas mon style du tout. Mmh. Moi, je suis soit dans le drame absolu, assumé,
ouais.
dans le tragique, quoi,
ouais, ouais.
ou alors dans le tragicomique.
D'accord.
Voilà, bon, il y a du tragicomique là-dedans, et voilà, je le revendique parce que c'est important pour moi de le revendiquer.
On va écouter donc le texte que tu as amené.
D'accord.
Donc, c'est Francis Bacon qui parle.
Oui,
c'est Francis Bacon. Et il parle de Van Gogh.
Voilà, il parle de Van Gogh. Alors, ce qui ne va pas être facile, c'est que j'arrive à le lire tout en ne m'écartant pas du micro. Devant lui, une mer de blé mûr, un ciel dense et tourmenté, et ces trois chemins qui ne mènent nulle part. Des chemins de terre et d'herbe, tous les trois. Il se mit à penser aux couleurs qu'il allait utiliser, et le sens de la toile lui apparut brutalement. Le jaune, dense, presque ocre, et le bleu. L'accord parfait, celui du bonheur, de la joie, il l'avait toujours vu comme ça. Et puis, il y aurait aussi l'accord du rouge terreux et du vert. Celui des passions mauvaises, de la souffrance, de la mort qui rôde. Il s'en était déjà servi par le passé. Pour peindre la salle de billard au premier étage du café de nuit à Arles. Vert le billard, rouge la salle. Et il attaqua avec le bleu de cobalt pur et ses trois jaunes favoris. Le citron et les deux chromes numéro 2 et 3. Puis il y aurait les ocres, les terres et ce fameux rouge anglais qu'il ferait serpenter aux côtés de son frère le vert moyen pour parler de la maladie, de l'absence d'issue et de toutes ces choses. Comme il était passé maître en matière de suggestion, il dessina à la brosse des traits discontinus de jaune, de brun rougeâtre, de bleu et un peu de blanc aussi pour les nuages. Parfois serrés, très courts ou plus longs, pour suggérer. Suggérer toujours avec des traits pour lancer la rêverie du spectateur, l'entraîner dans ce tourbillon de formes et d'émotions, à la vitesse d'une main qui écrit. Il en était là de sa méditation, quand soudain, un vol de corbeau effrayé se fit entendre derrière lui et s'éloigna à tire-d'aile vers cette mer jaune. Ah oui, le noir, se dit Vincent. Mais oui, bien sûr, le noir. Le voilà, mon chemin, celui des âmes damnées. Il prit un pinceau chargé de couleurs et libéra en noir le vol de corbeau, telle une traînée qui s'éloignait jusqu'au coin droit de la toile. En diagonale, à la manière de Rubens. Rubens, qu'il avait tant admiré en visitant la cathédrale d'Anvers.
Merci, très beau. Hein, très beau. Très beau,
oui. C'est beau, hein? «
Seigneur, quand froide est la prairie, quand dans les hameaux abattus, les longs angélus se sont tus sur la nature des fleuries. Faites s'abattre des grands cieux les chers corbeaux délicieux, les chers corbeaux délicieux. Armée étrange aux cris sévères, les vents froids attaquent vos nids, vous le long des fleuves jaunis, sur les routes aux vieux calvaires, sur les fossés, sur les trous, dispersez-vous, ralliez-vous, dispersez-vous, ralliez-vous. Milliers sur les champs de France où dorment des morts d'avant-hier, tournoyés n'est-ce pas l'hiver pour que chaque passant repense. Sois donc le crieur du devoir, ô notre funèbre oiseau noir, ô notre funèbre oiseau noir. Mes saints du ciel en haut du chêne m'a perdu dans le soir charmé, laissez les fauvettes de mai pour ceux qu'au fond du bois enchaîne, dans l'herbe d'où l'on ne peut fuir, la défaite sans avenir, la défaite sans avenir.
J'aime bien quand tu dis les textes. Il y en a un que j'ai retrouvé, tu sais, dans la chanson des Mauves.
Oui.
C'est La Charmeuse.
Ah oui, oui.
Est-ce que tu veux pas qu'on l'écoute?
Ah ben, je veux bien.
Voilà.
Parce que je l'ai pas revu. Et...
On va l'écouter.
Oh, hein. Il est déjà ce soir-là, mon Dieu.
Ouais, ça passe vite. Ça fait combien? Ça fait 5 minutes, même pas.
C'est possible que ça fasse un peu plus. Hein. Qu'est-ce que tu en... Tu vois la durée
5:40.
On essaie quand même. 5:40, il n'y a personne, de toute façon, là, pour l'instant.
Si, il est là. Donc,
ah, il est là.
On conclut là-dessus?
Oui, on va conclure là-dessus, ça te dit?
Ben, on conclut, d'accord, ça marche. Ah. Oui, ben, écoute.
Rendez-vous à Charleville.
Rendez-vous à Charleville.
Et puis, à d'autres dates. De toute façon, tu reviendras ou, de toute façon, on parlera de tes
prochaines... Mais on va en parler, parce que, normalement, je pense qu'avant les vacances, je repasserai... peut-être dans un petit lieu, peut-être dans un deuxième, je ne sais pas encore. C'est en projet en tout cas. Voilà.
D'accord.
Merci beaucoup Evelyne, merci Nicolas, merci tout le monde. Très contente de vous avoir vu en tout cas. Et voilà.
Elle habitait là-bas, tout au bout de l'impasse. Un petit hôtel borgne aux fenêtres aveugles. C'était à l'origine une simple voisine, de celles qu'on n'attend pas et qui sont déjà là. Il la croisait souvent sur le trottoir d'en face, au bras de ses amants, de passage à l'impasse. Elle n'était pas très belle, mais elle avait du charme et de grands yeux de mer qui font des vagues à l'âme. Elle n'était pas très belle, mais elle avait des charmes. Elle les vendait d'ailleurs, des fois pour presque rien, à des faux monnayeurs ou à des marchands d'armes. Elle trompait sa misère avec quelques rupins. Colombine égarée au coin de la rue là-bas, Colombine perdue au milieu des décombres, en habit de lumière, Barésie et Guépierre. Elle était Colombine et lui seul le savait. Colombine maquillée, en dompteuse, éphémère. Elle domptait les loups fauves et barbares de la rue, les seigneurs de la mer, les princes inconnus. Elle domptait l'infidèle sur l'autel du bordel. Elle domptait les marins, les juges, les assassins. Elle domptait la folie des ombres de la nuit. elle charmait les serpents. Elle consolait le veuf et aussi l'orphelin et les animaux tristes qui traînent leurs carcasses. Tout au fond de l'impasse, elle charmait les serpents. Elle charmait les serpents souples et indolents, les serpents insolents et voraces. Elle charmait les serpents de toutes les races. Elle leur parlait doucement dans la langue des bêtes. Ils s'enroulaient sur elle en frottant leurs écailles. Dans le paradis bleu de la chambre muette, ils s'évanouissaient dans une pluie d'étoiles. Elle charmait les serpents avec ses yeux d'enfant. Elle était colombine et lui seul le savait. Quand il la regardait sous ses paupières closes, il entrevoyait l'aube, le commencement des choses. Il l'aimait en silence depuis longtemps déjà. Il l'aimait à outrance et sans savoir pourquoi. Il attendait le soir où il oserait lui dire les secrets de son âme rongée par l'indicible. Il attendait le soir où il oserait lui dire, et ce soir arriva. Il ne l'avait pas vue sur le trottoir d'en face ce jour-là. Il alla à l'hôtel juste au bout de l'impasse et demanda la chambre où l'on faisait des passes. Troisième étage à droite, la porte est entr'ouverte. Il grimpa en courant, enfin il allait vivre. Il s'arrêta haletant devant l'entrebâillement, il sentit son parfum, hésita un instant, la main sur le bois blanc. Elle était là derrière, attendant le client. Il ne la toucherait pas, il l'avait dans la tête. Il parlerait doucement dans la langue des bêtes et il poussa la porte. Il y eut un grincement strident. C'est alors qu'il la vit couchée sur le plancher. Qui avait fait ce bruit ? Était-ce la porte ou lui ? Ce cri long et plaintif qui perçait sa poitrine, était-ce la porte ou lui qui avait fait ce bruit ? Elle était là par terre, comme une fleur coupée, rejetée par la mer de ses yeux verts, qui s'était retirée. Une poupée sans visage, un pauvre coquillage, obscène, sans mémoire. Envolée colombine fuyant dans les couloirs du rêve renversé qui se brise en miroir. Elle était colombine, à lui seul le savait. Il ne restait plus d'elle que son déguisement. Barésie et guêpière, panoplie dérisoire d'une charmeuse de serpent. Mort dans la nuit guerrière. Il la croisait souvent sur le trottoir d'en face, au bras de ses amants, de passage à l'impasse, à son cou, un bois rose.
T'as bien capté, Bulvoir, sur Libertaire, Radio Libertaire. On va parler de polar, sur Libertaire, Radio Libertaire.
De 17h à 19h,
baby,
ton ami Bob reçoit le gratin des auteurs. Radio Libertaire.
T'as bien capté, Bulle Noire, sur Libertaire, Radio Libertaire. On va parler de polar, sur Libertaire, Radio Libertaire.
Attention, c'est pas l'heure de 4 heures,
baby.
Faut pas tromper, les flingues vont sortir des holsters.
Oh. tes bulles noires. Sur libertaire,
Radio Libertaire.
On va parler de polar. Sur libertaire,
Radio Libertaire.
On parle de 38, de calibre 44.
Baby.
Mais bien sûr, tu es sur 89.4.
Radio Libertaire.
Radio Libertaire.
Radio Libertaire.
Radio Libertaire.
Radio Libertaire.
Radio Libertaire.